Émile Souvestre, Brest à deux époques. Revue des Deux Mondes, tome 6, 1836. Quoique située à l'extrémité de la Bretagne, la ville de Brest n'est pas une ville bretonne. C'est une colonie maritime composée de transfuges de toutes les provinces de la France et dans laquelle s'est formée je ne sais quelle race douteuse, sans caractère propre et sans aspect spécial. L'observateur attentif peut bien découvrir dans cette population habillée de toiles cirées et de cuir bouilli, qui vit les pieds dans l'eau et la tête dans les brumes, quelque chose des durs garçons de l'Armorique. Mais ce n'est qu'une trace fugitive. La ville n'a guère mieux conservé son air matelot. On sent bien encore un peu le goudron dans le premier port de France. On entend bien encore des marteaux de Calfa sur les bassins couverts. On rencontre bien encore, dans la rue des Petits Moulins, quelques vaillants maîtres au teint bistré, à la chic proéminente, aux escarpins enrubannés, venant de manger en 3 jours la paix de 15 mois, et cherchant d'un œil curieux un pousse-caillou à éreinter. Mais, à part ces quelques traits maritimes, répandus çà et là comme des vestiges d'antique beauté sur un visage décrépit, le grand port n'offre plus à l'œil rien de saillant ni d'animé. On sent que le vent de la faveur a cessé de souffler sur ce Versailles maritime, et que ses jours de splendeur sont passés. Ces longues files de vaisseaux désarmés dorment sous leurs toits peints. Ces quais, presque déserts, sont couverts d'encres gigantesques que rouille l'eau du ciel, de canons numérotés et de piles de boulets verdis par la mousse. À peine aussi de loin en loin, quelques coups de marteau, quelques grincements de fer, quelques champs de travail s'élèvent rares et solitaires dans d'immenses ateliers. De vieux gardiens, en cheveux blancs et en livrée, se promènent devant les magasins fermés, et des escouades de forçats passent lentement, avec leurs cliquetis de chaînes, traînant quelques débris de navires démolis, tandis que le long du canal encombré glissent silencieusement des bateaux de passage, délavés par la mer, et conduit par des chalandous en sabots. Rien ne peut rendre la sèche et monotone tristesse de ce tableau. Cela n'a même pas la poésie des ruines. C'est la décadence dans sa désolante laideur. En vain voit-on s'étaler sur les deux montagnes des lignes immenses d'édifices bien entretenus, des caltes, des usines, des machines somptueusement décorées de fer, de cuivre ou de plomb. Je ne sais quoi de languissant perce à travers cette magnificence arrangée. Ce qui manque au port de Brest, ce n'est ni le soin ni l'opulence, c'est le bruit, c'est le mouvement, c'est la vie. Brest rappelle la régularité de ces vieilles femmes qui, une fois leurs sourcils repeints et leurs corsets lacés, ont encore un faux air de vigueur et de sève. Mais regardez dans leurs yeux, la vie y est éteinte. L'enveloppe fraîche et jeune couvre un cadavre. Non pourtant qu'il faille regarder le port breton comme condamné sans retour, mais quelques changements que le temps apporte à ce grand port, nul ne le verra jamais tel que je l'ai vu autrefois. Brest, ce vaisseau à l'ancre sur la plus belle rade du monde, pourra bien cesser d'être un ponton délaissé. Il pourra recréer ses mâts, reprendre son air marin et guerrier. Il ne retrouvera plus les anciens équipages que j'ai vus sur ces gaillards. On ne retrouvera plus le vieux Brest royaliste, ni le vieux Brest républicain. La physionomie morale du grand port a changé avec les hommes et les idées, et c'est seulement par les récits que l'on pourra désormais connaître ce qu'il était. Moi qui l'ai connu à ces deux époques, et qui ai vécu au milieu des populations d'alors, si différentes de celles de nos jours, j'ai voulu réunir mes souvenirs d'autrefois et raconter le passé, afin de faire mieux aimer le présent. 1. Brest avant la Révolution. Le grand corps, les gardes de marine. J'étais encore jeune lorsque je fis mon premier voyage à Brest, en 89. Quoique je n'eusse point vu jusque-là de port militaire, je fus peu frappé de celui que j'avais sous les yeux. Je le trouvais petit, étroit, mesquin. Mais si la vue du port de Brest n'éveilla point chez moi l'admiration qu'il méritait, en revanche, l'aspect de sa population me causa une singulière surprise. je trouvais là un peuple sans nom, chez lequel je cherchais en vain un type national, et qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'alors. Ce n'étaient ni des Européens, ni des Asiatiques, ni des Africains. C'était quelque chose de tout cela à la fois. Brest avait tant reçu dans son port de ces grandes escadres sur lesquelles naviguaient des renégats de toutes les nations, que le libertinage y avait confondu tous les sangs de la terre. Son peuple présentait je ne sais quel indéfinissable mélange de toutes les couleurs et de toutes les natures, depuis le Lapon huileux jusqu'au nègre de la côte de feu, depuis le Chinois vernissé jusqu'au Mohican des grands lacs. Les classes supérieures elles-mêmes, quoique restées à l'abri de cette promiscuité brutale, en avaient ressenti le contre-coup. L'Inde, dont nos navires couvraient alors les mers, avait habitué notre marine à ses sensualités orientales. Et tous, officiers et matelots, en avaient rapporté je ne sais quelle soif de volupté, quelle fièvre licencieuse qui s'était communiquée de proche en proche et avait bientôt envahi tous les rangs. La noblesse, qui occupait exclusivement les positions élevées, donnait l'exemple à cet égard. On trouvait encore chez elle tout le débordement licencieux du siècle précédent. C'était la régence avec des passions plus sauvages, plus sincères. La régence avec d'ardents marins calcinés par les tropiques, au lieu de pâles rouées en jabot de dentelle. La cabine de 6 pieds et le hamac africain, au lieu de la petite maison et du sofa à franges de soie. Du reste, ce n'était pas seulement par son libertinage que Brest rappelait une époque passée. Il n'existait point en 89, dans toute la France, une autre ville qui eût conservé aussi intactes les traditions de la monarchie féodale et les préjugés nobiliaires. Les idées révolutionnaires avaient commencé à y germer vigoureusement comme partout, mais sans pouvoir détruire l'aristocratique despotisme de la marine. Ce corps se partageait alors en deux catégories bien distinctes. L'une nombreuse, riche, influente, recrutée dans la noblesse, formait ce que l'on appelait le grand corps. L'autre, presque imperceptible, pauvre et méprisée, était composée des officiers de fortune que le hasard, ou un mérite supérieur, avait tirés de la classe des pilotes et que l'on désignait sous le nom d'officiers bleus. Avant de faire partie du grand corps, les cadets des familles titrées passaient par l'école des gardes de pavillon, qui, à de très rares exceptions près, leur était exclusivement réservée. Cette école, soumise à une discipline fort relâchée, était pour Brest une cause perpétuelle de désordre. Rien n'arrêtait cette jeunesse gâtée et vaine, accoutumée dans le manoir paternel à la servilité complaisante de vassaux tremblants, et qu'on lançait tout à coup sans frein, avec un uniforme et une épée, au milieu des licences de la vie de mer. Chez les vieux officiers, du moins, l'expérience et le bon sens assouplissaient l'orgueil héréditaire. Le frottement du monde en émoussait le tranchant. L'âge, en assoupissant la turbulence des passions, les rendait moins effrénés. Mais, chez ces enfants, rien n'en adoucissait la grossière manifestation. Leur vanité s'exerçait dans toute sa naïveté. Ils se faisaient un point d'honneur de leur insolence. Ils mettaient leur amour-propre à se rendre insupportable et ne se trouvaient jamais assez affronteurs, assez odieux. Aussi avaient-ils pris possession de la ville et s'y conduisaient-ils en conquérants. Tout ce qui ne portait pas comme eux la culotte et les bas rouges leur était ennemi. Ce n'était pas seulement l'expression d'un orgueil insolent que le bourgeois avait à supporter. C'étaient les taquineries tracassières d'écoliers effrontés. C'étaient des impertinences assez adroites, assez multipliées pour trouver les jointures de la patience la plus solide. Et nul moyen de se préserver de ces attaques, car elles venaient vous chercher partout, sur les promenades, au spectacle, dans votre maison. La nuit surtout, nul ne pouvait s'en croire à l'abri. Souvent, au milieu de votre sommeil, vous étiez réveillé par une voix lamentable qui vous appelait par votre nom. Vous courdiez ouvrir votre fenêtre, et à peine aviez-vous passé la tête dehors, qu'une brosse insolente vous peignait la figure à l'huile, aux grands éclats de rire des gardes de marine qui tenaient l'échelle du barbouilleur. Un autre jour, En vous levant, vous ne trouviez plus ni porte ni fenêtre à votre rez-de-chaussée. Tout avait été muré pendant la nuit. Ici, c'était des enseignes dont on avait changé la place, de telle sorte que l'affiche d'une sage-femme se trouvait sous le balcon d'un pensionnat de jeunes filles. Là, le réverbère que l'on s'était amusé à descendre dans le puits banal, tandis que le seau avait été hissé à la potence du réverbère. Et qu'on ne croit pas que l'insolence des gardes de pavillon se bornât à ces insultes anonymes et individuelles. Parfois, elle s'adressait à la population entière. Un jour, par exemple, il se disait « Il n'y aura pas de spectacle ce soir ». Et quand vous arriviez avec votre fille ou votre femme pour voir la pièce nouvelle, vous trouviez deux de ces messieurs à la porte du théâtre, le chapeau sur l'oreille, l'épée à la main, qui vous disaient tranquillement « On n'entre pas », en vous mettant la pointe au visage, et il vous fallait rebrousser chemin. Un autre jour, c'était une promenade qui était ainsi mise en interdit. À ceux qui se présentaient, on criait de loin « Les gardes de marine se promènent, monsieur !» et il fallait se retirer. Anciennement, cette audacieuse licence était allée plus loin, et les officiers supérieurs eux-mêmes en avaient donné l'exemple. On tendait des filets dans les carrefours, on prenait au piège les jeunes servantes qui sortaient, le fanal à la main, pour aller chercher leur maîtresse, et on ne les relâchait que le lendemain. Les bourgeoises elles-mêmes ne pouvaient se montrer dans les rues, une fois la nuit close, sans s'exposer à être insultées. La fille d'un marchand de la rue des Sept Saints, alors fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui, fut enlevée en sortant des prières du soir, et quand, 8 jours après, on la rendit à son père, elle était folle. Cette fois l'affaire fit du bruit. Le peuple murmura. On trouva l'espièglerie trop forte, et les chefs voulurent faire un exemple sur les 4 officiers coupables de l'enlèvement. Ils furent mis aux arrêts et condamnés à placer à leurs frais la fille du marchand à l'hôpital. Ce fut à la même époque qu'un capitaine de frégate, partant pour l'Inde, réunit ses créanciers à bord, fit lever l'ancre et ne consentit à les débarquer qu'à 20 lieues de Brest, et après avoir exigé quittance de chacun d'eux. Cette escroquerie ne lui attira aucun châtiment. Si la conduite des officiers était telle, on conçoit qu'elle devait être celle des matelots. La licence des chefs servait de modèle et d'excuse à celle de leurs inférieurs. Quand des équipages arrivaient de mer, ils s'emparaient de la ville comme du pont d'un navire pris à l'abordage. Alors il fallait faire rentrer les enfants et les femmes, fermer les fenêtres et baisser les rideaux, car le regard ne pouvait tomber dans la rue sans rencontrer une image sanglante ou obscène. Mais la nuit venue, c'était bien autre chose. Ce n'était plus que clameur furieuse, cris de meurtre et hurlement d'ivrogne. La ville, qui avait été tout le jour un lupanar, devenait alors un coupe-gorge. Les matelots et les soldats s'assassinaient dans chaque carrefour sans que personne songeât à s'y opposer, et sans que le paisible habitant prît garde à une chose aussi vulgaire. Le lendemain seulement, les laitières de la campagne, en parcourant les rues encore solitaires, s'arrêtaient un instant autour des cadavres que l'orgie avait laissés après elle, puis passaient en disant tranquillement « Il paraît qu'il y a des navires du roi en rade ». Tandis que le bourgeois, devant la porte duquel l'homme était tombé, en faisait débarrasser le seuil, laver le pavé et rentrer pour déjeuner. Comme je l'ai déjà dit, cet état de choses s'était modifié en 89. Sans avoir perdu son orgueilleuse suffisance, le corps de la marine était forcément plus circonspect à l'égard des habitants, qui se montraient moins patients que par le passé. Cependant, des rixes fréquentes avaient encore lieu, et je me rappelle avoir été forcé 2 fois de mettre l'épée à la main, en pleine promenade, pour faire respecter des dames que je conduisais. Ces faits, d'ailleurs, étaient journaliers. Quant au dédain que le grand corps avait toujours témoigné aux officiers sans naissance, il restait le même qu'autrefois. C'étaient toujours les officiers bleus, ou les intrus, comme ils les appelaient. Hommes de fer, qui, malgré les mépris, étaient allés droit devant eux, dont le courage et le talent avaient grandi au bruit des risées, et qui étaient entrés dans le corps aristocratique, comme sur le gaillard d'un vaisseau anglais, le pistolet au poing et la hache à la main. Du reste, la hauteur injurieuse que les privilégiés affectaient à leur égard avait une autre source que la cause avouée. L'orgueil couvrait de son pavillon les sentiments de haine et de jalousie que l'on aurait osé étaler au grand jour. Les nobles sentaient que la seule présence de ces hommes dans leur rang était une violation de leurs droits héréditaires. C'était une protestation vivante du talent contre la naissance, un cri sourd d'égalité, jeté par la nature au milieu des inégalités consacrées. Puis les officiers bleus avaient l'impardonnable tort d'être habiles. On pouvait les humilier, mais non s'en passer. Il fallait donc leur faire payer le plus chèrement possible leurs indispensables services. Aussi, rien n'était-il épargné à cet égard. L'insolence envers un intrus était non seulement permise, c'était un devoir sacré qu'on ne pouvait oublier sans s'exposer soi-même au mépris de ses camarades. Lorsque je visitais Brest, on me montra un vieux capitaine qui, dans sa vie, avait fait amener pavillon à 60 navires anglais de toute force, qui comptait 32 blessures reçues dans 40 combats. Ses deux fils, sortis depuis peu des gardes de marine, avaient tout à coup cessé de le voir. Surpris et affligé de cet abandon, le vieillard leur en avait fait un tendre reproche. Les jeunes gens avaient baissé les yeux avec embarras. Enfin, pressés par les questions du vieux marin, « Que voulez-vous, mon père ?» avait répondu l'un d'eux. « On nous a fait sentir que nous ne pouvions plus vous voir. » Vous êtes un officier bleu. » Et ne croyez pas que la haine des officiers du grand corps contre les intrus s'arrêta à ces cruelles insultes. Parfois, elles descendaient jusqu'au plus lâche guet-apens. Le capitaine Charles Cornic en fournit un exemple. Ce nom est peu connu, et puisqu'il est tombé sous notre plume, nous dirons quelque chose de celui qui le portait. Ce sera pour nous le moyen le plus infaillible de faire connaître ce qu'était la marine d'alors, et en même temps l'occasion de ramasser à terre une de ces gloires ignorées, pièces d'or perdues dans la poussière, et sur lesquelles un siècle marche sans les voir. Charles Cornic, messe du peuple breton. Charles Cornic était né à Morlaix. Tout jeune, il commanda les corsaires de son père et parcourut les mers de l'Inde, battant les Anglais et ruinant le commerce de la Compagnie. C'était ainsi que commençaient alors tous ces vaillants hommes de mer qui, comme Jean Bart, Du Guesclin et De Cessart, n'avaient à faire graver dans leur écusson roturier qu'une boussole et une crosse de pistolet. Charles Cornic se rendit si redoutable dans ses croisières que le ministre de la Marine, qui entendait sans cesse répéter ce nom, consentit à l'essayer. Mais le faire ainsi de prime abord officier de la marine royale, sans autre titre que de sa gloire, eût été une énormité capable de soulever toute la noblesse. Le ministre n'osa se permettre un tel abus de pouvoir. Il donna à Cornic le commandement de la frégate La Félicité, avec une simple commission de lieutenant de frégate, qui le laissait en dehors du corps de la marine. Cornic s'en inquiéta peu. Il avait un navire sous ses pieds et le pavillon de France à sa drise. Il n'en demandait pas davantage. Il part pour escorter le Robuste qui se rendait à la Martinique, rencontre le corsaire anglais l'Aigle, fort de 28 canons. L'attaque, l'aborde, le prend après une demi-heure de combat. De retour en France et prêt à entrer à Brest, il trouve l'Iroise bloquée par une escadrille anglaise. Cornic assemble son équipage, composé tout entier de Bretons. « Garçons, leur dit-il dans leur langue, nous avons là sous notre vent un vaisseau, une frégate et une corvette qui ne veulent pas nous faire place. Mais la mer et le soleil sont à tout le monde. Vous devez être pressés d'embrasser vos mères et de faire danser vos bonnes amies au pardon. Nous allons passer droit notre chemin, comme de vaillants gars et sans regarder derrière. » Derrière, c'est la mer, et devant, c'est le pays. Au plus faible d'abord, mettez la barre sur la corvette et nous allons voir. Un joyeux hurrah s'éleva de tous les points du navire, et chacun prit son poste. La Félicité rencontra d'abord la frégate La Tamise, qui lui envoya ses deux bordées auxquelles elle riposta. Puis, passant outre, elle essuya le feu du vaisseau l'Alcide, y répondit et tomba toute voile dehors sur la corvette le Rambler. Surpris ainsi et coupé de ses deux compagnons, le Rambler envoya ses bordées, puis voulut manœuvrer pour se mettre derrière les feux des navires anglais. Mais avant qu'il eût pu les rallier, la Félicité laissa arriver sur lui presque bord à bord et lui envoya ses deux volets à bout portant. Un horrible fracas, suivi d'un grand cri, se fit entendre, et quand la frégate française, emportée un instant par son air, vira sur elle-même, le nuage de fumée qui avait entouré la corvette se dégageait et la laissa voir dématée de ses trois mâts et s'enfonçant lentement dans les flots. Cependant, l'Alcide arrivait au secours du Rambler qui sombrait. Cornick profita du moment de trouble et de retard qu'entraînait cette manœuvre pour tomber sur la frégate ennemie qu'il couvrit de son feu. Il l'aurait coulée comme la corvette si l'Alcide, qui avait mis ses embarcations à la mer pour sauver l'équipage du Rambler, virant de bord subitement, n'était venu longer à bâbord la Félicité, qui se trouva ainsi prise entre deux feux. Alors ce ne fut plus un combat, mais un massacre. Le vaisseau anglais, dominant la frégate française de toute la hauteur de ses batteries, semblait un volcan en éruption, et l'inondait d'une pluie de mitraille. On respirait dans une atmosphère de soufre, de feu, de fer et de plomb. La fumée et le fracas de l'artillerie ne permettait ni de voir ni d'entendre. Le vent, abattu par tant d'explosions, ne se faisait plus sentir. Les voiles faisaient le long des mâts. La mer, comme épouvantée, avait laissé retomber ses vagues, et le navire n'obéissait plus au gouvernail. Tout à coup, le feu se ralentit, puis s'arrête. Cornick, étonné, regarde autour de lui. Un maître accourt. « Capitaine, on ne reçoit plus d'ordre. » Tous les officiers sont tués. Le capitaine s'élance de son banc de car. En ce moment, un boulet coupe la drise du pavillon français qui disparaît. « Nous avons amené !» crie un matelot. Ce cri se répète dans la batterie et les canonniers français jettent leurs mèches à la mer. De leur côté, les Anglais, qui n'entendent plus les canons de la Félicité et ne voient plus flotter son pavillon, croient qu'elle s'est rendue et cessent de tirer. Mais Cornick a tout vu. Il court à la chambre, reparaît avec un nouveau drapeau, monte lui-même sur la dunette pour le hisser, et tirant ses deux coups de pistolet sur les canons qui sont près de lui, « Feu, garçon !» s'écrie-t-il. « Votre capitaine et votre pavillon sont à leur poste. À vos pièces, et feu tant qu'il y aura un homme à bord. » Les marins obéissent avec un hourra, et le combat recommence, plus acharné et plus terrible. Mais il dura peu de temps. Là d'une lutte si longue, écrasés, vaincus, les Anglais cédèrent. Les deux navires qui restaient regagnèrent Plymouth, coulant bas d'eau et sous leur voile de fortune, tandis que la Félicité rentrait à Brest noire de poudre, ses épars brisés, mais toute voile déployée, fendant légèrement les flots et avec le pavillon blanc fièrement cloué à son mât. En récompense de ce merveilleux combat, Cornick fut nommé lieutenant de vaisseau, malgré les réclamations des officiers de marine qui, pour se venger de ses succès, le mirent en quarantaine. Vers cette époque, l'amiral Rodney bloqua le Havre de Grâce avec une escadre considérable. Ce port manqua bientôt de munitions. Pour lui en apporter, il fallait traverser la flotte anglaise avec deux navires. C'était une entreprise qui offrait 1000 chances de mort contre une de réussite. Cornick fut désigné pour la tenter. Et cette fois, les officiers du grand corps se turent. Ils espéraient être enfin délivrés de cet aventurier audacieux dont les triomphes les empêchaient de dormir. Mais Cornick devait encore tromper leur attente. Il partit de Brest, après avoir pris toutes ses mesures, arriva avant le point du jour au milieu de l'escadre ennemie, portant le pavillon d'Angleterre, et poursuivant l'Agathe, qui fuyait devant lui sous pavillon français. Il passa ainsi librement au milieu des Anglais, qui le prirent pour un tailleur. Et lorsqu'il fut à la hauteur de leur dernière ligne, il hissa son drapeau blanc, lâcha ses deux bordées et entra au Havre. Ce nouveau succès devait faire espérer à Cornick quelques récompenses. Elle ne se fit pas attendre. Il apprit 8 jours après que le commandement de sa frégate lui était retiré. Aigri et indigné, il revint dans son pays en jurant de ne plus mettre le pied sur un vaisseau du roi. Cependant, il était trop jeune pour interrompre une carrière si brillamment commencée. Les négociants de la Bretagne voulurent le dédommager des injustices du gouvernement. Ils firent construire et armer à leurs frais le vaisseau le Prométhée, dont ils lui donnèrent le commandement. Cornic part pour l'Inde, rencontre le vaisseau l'Ajax, fort de 64 canons, et s'en empare. 12 officiers de marine, parmi lesquels se trouvait M. de Bussy, étaient prisonniers à bord du navire anglais. On juge de leur surprise et de leur dépit quand ils se rencontrèrent face à face avec l'intrus qui venait de les délivrer. Ils voulurent pourtant balbutier quelques mots de félicitations. Cornic s'inclina et répondit froidement que c'était en effet beaucoup d'honneur pour lui, pauvre capitaine de corsaire, d'avoir châtié l'Anglais qui avait eu l'audace de faire prisonnier des officiers de Sa Majesté. « J'espère que ces messieurs me le pardonneront, » ajouta-t-il, et il se retira. Cette fierté amère indigna les compagnons de M. de Bussy, et ils en gardèrent un ressentiment profond. Leur arrivée à Brest produisit une grande sensation. Le peuple, si bon appréciateur des actions d'éclat, portait au nu le capitaine du Prométhée. Il ne parlait pas seulement de son courage et de son habileté, il vantait aussi sa loyauté, sa bienfaisance, sa brusquerie même. Car le peuple aime autant les défauts qui rapprochent de lui l'homme supérieur que les vertus qui font sa gloire. Les bourgeois, de leur côté, vantaient son désintéressement et répétaient qu'il avait laissé aux armateurs du Prométhée, sans vouloir en prendre sa part, tous les diamants trouvés à bord de l'Ajax, dont la valeur s'élevait à 5 millions. Ces éloges blessaient au vif l'orgueil du grand corps. Les plaintes des prisonniers délivrés par Cornic accrurent l'irritation contre lui. Les privilégiés s'indignèrent d'entendre sans cesse ce nom les poursuivre comme un remords. Ils avaient eu trop de tort envers cet homme pour ne pas le haïr mortellement. Ils résolurent de s'en débarrasser. Cependant, le capitaine du Prométhée n'avait entendu parler que vaguement du complot qui se formait contre lui. Lorsqu'un jour, en descendant à terre, il trouva, au haut de la cale, un groupe d'officiers de marine qui l'attendaient. À leur attitude, à leur regard, Cornic comprend aussitôt ce dont il s'agit. Il s'avance vers eux. « Est-ce à moi que vous voulez parler, messieurs ? » dit-il. « Je suis à vos ordres. » Encore plus irrités de cette audace, les officiers déclarent aux jeunes marins qu'ils ont juré d'avoir sa vie et qu'il faudra qu'il leur donne satisfaction à tous, l'un après l'autre. « Soit, » répond Cornic, et il les conduit lui-même dans une des carrières voisines du cours d'Ajau. Les fers se croisent, et le capitaine du Prométhée renverse son adversaire. « À un autre, messieurs, » dit-il froidement. Un autre se présente et tombe également. Un troisième, un quatrième, un cinquième ne sont pas plus heureux. Il n'en restait plus que deux, qui hésitent. Ils veulent objecter l'absence de témoins, dont ils s'aperçoivent alors pour la première fois. « Ces messieurs nous en serviront, » dit Cornic en montrant les blessés. Et il attaque les deux derniers officiers, qu'il blesse comme les autres. Cette affaire mit le comble à sa popularité, mais elle porta l'exaspération du grand corps à un tel point que l'intendant de la marine, pour éviter de nouvelles rencontres, et peut-être un assassinat, fut obligé de donner au capitaine du Prométhée une garde pour sa sûreté personnelle. La carrière militaire de Charles Cornic se termina à cette époque. Un amour partagé, son mariage avec la femme qu'il aimait, la perte de cette femme, qu'il trouva morte à ses côtés 10 jours après l'avoir épousée, le long désespoir qui suivit cette mort, tout se réunit pour le retenir à terre et amortir chez lui l'aventureuse ardeur qu'il avait jusqu'alors poussée à tant de vaillantes témérités. En 1770 seulement, à l'époque du terrible débordement de la Garonne, alors que les populations épouvantées prirent la fuite, abandonnant ceux que les eaux avaient surpris, les gazettes racontèrent qu'un ancien marin, après avoir proposé les plus grandes récompenses à ceux qui voudraient le suivre, n'avait pu décider personne à le faire, qu'alors il avait forcé, le pistolet sur la gorge, 4 matelots à entrer avec lui dans un canot, et que malgré la violence du fleuve, il avait fait le tour de l'île Saint-Georges, recueillant les habitants qui s'étaient sauvés dans les arbres et sur les toits. Le journal ajoutait qu'il avait continué ce périlleux sauvetage pendant 3 jours et 3 nuits, et qu'il avait ainsi arraché à la mort 600 personnes, qu'il avait ensuite nourri à ses frais pendant près d'un mois. Cet ancien marin était Charles Cornic. Le roi Louis XVI lui écrivit de sa propre main pour le remercier, et la ville de Bordeaux lui envoya des lettres de bourgeoisie. Mais cet événement avait réchauffé le sang de l'ancien corsaire. En entendant mugir à son oreille le fleuve débordé, il avait cru reconnaître la grande voix des flots. En sentant sa barque vaciller sous ses pieds, il avait pensé un instant retrouver le tangage d'un navire sur les vagues de l'océan. Alors les réminiscences de cette vie de danger et de gloire qu'il avait abandonnée lui revinrent comme des parfums lointains. Il commença à regarder vers la mer avec des aspirations et des soupirs. Chaque soir, dans ses songes, il se croyait debout sur le bastingage, son porte-voix de commandement à la main, et suivant de l'œil une voile éloignée qui prenait chasse devant lui. La guerre, d'ailleurs, se préparait, et la France allait avoir besoin de mains exercées pour tenir le gouvernail de ses vaisseaux. Cornic ne put résister plus longtemps à ses désirs. Il se résigna à faire une démarche nouvelle, et a demandé un commandement. Après 2 mois d'attente, il reçut une réponse du ministre qui le remerciait de ses offres et le refusait. Ce fut le dernier coup pour lui. Il brisa son épée et se retira à la campagne pour y mourir. J'ai raconté longuement cette histoire d'un homme peu connu, parce qu'elle est caractéristique. Cornic a été le type de l'officier bleu, et sa vie présente le résumé des iniquités et des tortures qu'avaient alors à supporter les marins sans naissance. Ce qu'il souffrit, tous les autres le souffrirent sous des formes et à des degrés différents. Mais le jour de la justice approchait. La noblesse s'étourdissait vainement dans une dernière orgie de pouvoir. Elle s'abreuvait vainement à longs traits d'un orgueil qui la rendait ivre. C'était le festin de Balthazar, et le Daniel qui devait expliquer l'inscription menaçante n'était pas loin. À Brest même, comme je l'ai déjà dit, l'approche de la Révolution qui allait renouveler la France commençait à se faire assez vivement sentir, et l'insolence aristocratique du grand corps s'était un peu adoucie. Les bourgeois et les officiers bleus pouvaient bien encore recevoir des insultes, mais non les souffrir patiemment. Une volonté d'insurrection contre les privilèges se manifestait partout. L'esprit révolutionnaire soufflait dans toutes les âmes. C'était je ne sais quoi de turbulent, d'audacieux, que l'on se communiquait par la parole, que l'on respirait dans l'air, que l'on sentait germer subitement en soi sans cause apparente. Les classes inférieures, jusqu'alors exploitées, semblaient touchées à une de ces heures de résolution que tout homme a connues, au moins une fois dans sa vie, et pendant lesquelles on joue sa tête à pile ou face. Espèce de fièvre de courage qu'il serait aussi difficile de motiver que ces prostrations morales, ces lâchetés magnétiques qui se saisissent à certains moments des peuples ou des individus, et les livrent à la tyrannie du premier venu. Sans s'expliquer nettement cette situation nouvelle, les officiers de marine en avaient l'instinct. On le devinait à leur air moins absolu, moins conquérant, à je ne sais quelle prudente inquiétude qui se déguisait aussi mal que la triomphante allégresse de ceux du tiers. Les événements qui avaient eu lieu à Rennes les 26 et 27 janvier, et la lutte sanglante des jeunes bourgeois contre la noblesse aidée de ses valets, étaient venus accroître la fermentation qui travaillait sourdement la population brestoise. On se réunissait dans les cafés pour lire la Sentinelle du Peuple, qui venait d'être publiée à Rennes, et dont l'énergique langage ne ménageait déjà ni les idées ni les personnes. À cette époque, on n'avait point encore eu d'exemple d'une telle hardiesse. Des pamphlets clandestins avaient bien attaqué le roi, la reine, la noblesse et le clergé, mais ces coups de poignard avaient été portés dans l'ombre, et sans qu'on pût dire au juste d'où ils partaient. Aujourd'hui, il en était tout autrement. Les hommes qui osaient frapper ne se cachaient plus le visage. En jetant leur cartel, ils le signaient de leur nom. Ce n'étaient plus des assassinats anonymes, c'était une insurrection ouverte et avouée. En lisant pour la première fois un journal dans lequel on osait tout dire, chacun éprouva une sorte de saisissement et de peur. La presse était une arme inconnue, dont l'explosion fit sur tous le même effet que la poudre à canon sur les sauvages du Nouveau Monde. Mais une fois cette première surprise passée, il y eut émulation d'audace. Ce fut à qui manierait l'arme nouvelle avec le plus de témérité. Chacun osa dire tout haut ce qu'il n'avait peut-être point osé jusqu'alors se dire à lui-même tout bas. On fouilla dans ses vieux ressentiments, on secoua tous les replis de son âme, on vida sa poche de fiel sur le papier, et la colère de tous s'accrut de la colère de chacun. Je fus témoin, avant de quitter Brest, d'une scène qui me donna la mesure de l'opinion publique. C'était le soir. J'entrais dans un café habituellement fréquenté par les jeunes gens de la ville et les officiers bleus. Je fus étonné, en ouvrant la porte, de voir tout le monde réuni autour d'une table, près de laquelle un jeune homme était debout, un verre de punch devant lui, et parodiant avec gravité les cérémonies de la messe. Je m'approchai d'un groupe et demandai à un officier ce qu'on faisait là. « On dit la messe du peuple breton, monsieur, me répondit-il, en mémoire des célèbres journées de Rennes. » Je prêtai l'oreille. Dans ce moment, le jeune homme répétait à haute voix cette partie de la messe appelée tractus dans les missels. Ce fut, pour les ignobles vaincus, un jour de ténèbres, d'affliction, d'angoisse. Les humbles furent élevés, et ils dévorèrent les superbes. Ils ont dû être confus, ces ignobles, pour avoir tenu une conduite abominable. Ou plutôt, la confusion n'a pu les confondre, car ils ignorent ce que c'est que rougir. Ils ont mis le poignard aux mains de leurs serviteurs, et ils les ont payés pour répandre le sang du peuple. Loin d'en rougir, ils en ont tiré vanité, et loin de s'en repentir, ils ont gardé parmi eux ceux qui avaient sollicité cette horreur et l'honneur de marcher à la tête des assassins. Un des leurs est tombé mort à leurs pieds. La mère qui l'avait excité, placée à une fenêtre, le vit tomber et jetait les hauts cris. Partout, battu et terrassé, le noble honteux exprime ainsi ses regrets. « Ah, le peuple m'a pris par le côté faible. Aussi m'a-t-il aisément dépouillé de ma gloire. Je suis devenu le sujet de ses chansons. Je suis l'objet de ses railleries. Il m'a en horreur, il me fuit avec dédain, et il ne craint même pas de me cracher au visage. » Puis vint la prose, traduite presque entièrement du livre de la sagesse et de l'Ecclésiaste. « La nature nous fit tous égaux. Je suis un homme mortel semblable à tous les autres, de la race de cet homme fait de terre. Chair revêtue d'une forme, je suis sorti du ventre de ma mère. Je suis né et j'ai respiré l'air commun à tous. Je suis tombé dans la même terre, et je me suis fait entendre d'abord en pleurant comme vous, grand du monde. J'ai été enveloppé de langes et de grands soins, car il n'y a point de roi qui soit né autrement. Les nobles orgueilleux agissent comme s'ils étaient d'une race différente, et cependant leur vanité rampe aux plus misérables besoins. » Le jeune homme lut ensuite l'Évangile de la raison. « Gloire à vous, Père des êtres ! Dès le commencement du monde, dit le Seigneur, j'ai eu en exécration l'orgueil, et la prière de l'humble m'a été agréable. Je veux effacer la mémoire des superbes de l'esprit des hommes. Je les exterminerai avec une de leurs mâchoires, avec la mâchoire d'un poulain d'ânesse. Cette classe de nobles est sans son bon sens, sans sagesse. Ils m'ont attaqué par leur insolence, et le bruit de leur orgueil est monté jusqu'à mes oreilles. Je leur mettrai un cercle au nez et un mort à la bouche, et les faisant rebrousser chemin, je les ferai devenir moins qu'ils n'étaient au commencement. Le temps est venu, mon peuple, que vous allez secouer le joug de tous ces tyrans en robe, en simarre et en épée. Alors le prêtre sera comme le citoyen, le seigneur comme le serviteur, la maîtresse comme la servante, le noble comme le bourgeois, celui qui emprunte comme celui qui prête. Ainsi, l'occasion étant favorable, réclamez hautement vos droits et remettez-vous en possession du privilège de vos pères. vint après le credo patriotique et le pater national. Credo. Je crois à la puissance du souverain. J'appréhende celle d'emprunt des magistrats. Celle-là révocable dans le cas de lèse-nation, celle-ci dans le cas de lèse-citoyen. Celle-là cédée par la nation à une suite d'héritiers mâles d'une famille, celle-ci confiée à des citoyens amovibles et révocables. Je crois à la puissance du souverain dans ce qui concerne la justice, la police, le commerce, les arts, la guerre. Je crois à la puissance inaliénable et imprescriptible de la nation dans ce qui regarde l'admission des subsides, leur répartition, leur perception, la connaissance de leur emploi et leurs termes. Je crois au besoin des États généraux fixés à époques peu éloignées, pour que la nation sente son existence morale, à leur nécessité, sine qua non, pour le renouvellement et la continuation des subsides, à leur utilité pour la correction des abus en tout genre et l'exécution de tout ce qu'on imagine de bien à faire. J'attends l'extirpation des vices et le règne des vertus. Ainsi soit-il. Pater. Notre Père qui êtes assis sur le trône des Français, que cette révolution soit heureuse, pour le raffermir pour la gloire de votre nom, pour la durée de votre règne, pour l'exécution de votre volonté toujours soumise aux lois. Assurez-nous nos propriétés. Vengez-nous des offenses que nous a faites jusqu'ici en abusant de votre nom et de votre autorité. Ne nous exposez plus à la puissance des nobles, mais délivrez-nous-en tout à fait. Ainsi soit-il. Cette étrange messe, presque littéralement traduite de fragments de livres saints, continua ainsi sur un ton de gravité plutôt menaçant que grotesque. La foule écoutait avec des sourires sombres, de brèves exclamations de colère et des applaudissements rapidement comprimés. Quant à moi, je suivais, surpris et intéressé tout à la fois, ce pamphlet moitié chrétien et moitié philosophique. Véritable table, œuvre d'un Breton qui laissait pendre un bout de son chapelet sous sa carmagnole révolutionnaire, et adorait ses nouvelles idoles avec les mêmes cérémonies et les mêmes instruments de culte que les anciennes. Quand le jeune homme qui lisait eut fini, je m'approchai et lui demandai quel était l'auteur de cet écrit. Il me tendit une brochure qu'il tenait à la main. C'était la messe du peuple breton, en mémoire des célèbres journées des 26 et 27 janvier 1789, en latin et en français, suivant le texte des Écritures, par un patriote mal costumé. Triste et pensif, je demeurai en silence, les yeux attachés sur ce titre. Il était plein d'éloquence, et il était facile de prévoir où cela devait conduire. Il n'y avait pas si loin du patriote mal costumé de 89 au sans-culotte de 93.